Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Salut, salut tout le monde! Bon jeudi pour ceux qui nous écoutaient en direct. Jeudi, mon Dieu, j'ai même pas regardé. Messieurs, savez-vous la date, vous? 17? Oui, hein? Merci Rémi. 17, Rémi qui est à la mise en onde, Anne-Laure qui est à la recherche. Et ben, on s'entend, 17. hey, c'est particulier cette semaine. J'ai l'oreille droite bouchée depuis samedi. Évidemment, bon, ça change complètement les repères. D'habitude, ça passe après une demi-journée, mais là, ça fait 5 jours. J'ai essayé le peroxyde et tout, mais non. Syndrome de Usher, là, je comprends un peu plus. J'avoue que ça ne doit pas être évident pour ces gens-là. Pas toujours évident, effectivement. On va parler calendrier aujourd'hui avec une maman qui a décidé non seulement de photographier son fils qui est atteint de, ben, d'une des versions du nanisme. Il y en a plus de 200, je pense, au Québec. Mais également mettre en évidence d'autres enfants avec d'autres types de handicaps. On va donc rejoindre Valérie du côté de Québec. On va aller causer également, tiens, d'Alzheimer. On va causer théâtre. On va causer pas mal de choses. Les journées, lésions médulaires. C'est Mémo Québec qui a lancé ça, première édition. Donc, encore du pain sur la planche pour la prochaine heure. Je vous disais qu'on parlerait trésor et tiens, il y a peut-être un petit lien avec le syndrome de Usher et l'oreille droite bouchée puisque je suis allé voir Tribu. On aurait bien aimé avoir des gens jeudi dernier puisque, bon, la pièce se termine le 19. Vous donnez plus de temps d'en profiter du côté de la licorne, mais bon, on avait de la difficulté à tous mettre nos agendas au diapason. Messieurs, bonjour. Jean-Simon Traversy, vous êtes assistant metteur en scène de Tribu. Oui. Donc, cette pièce de théâtre présentée depuis le 8 septembre. Est-ce qu'il y a des supplémentaires, Jean-Simon, peut-être?
Non, pas pour cette série-ci de représentation. On va être à Québec, par contre, à la fin du mois d'octobre. Je pense que c'est du 19 au 31.
Du 20 au 31.
Merci, octobre. David.
Quel théâtre,
au
David?
Théâtre Périscope.
Parfait, au Périscope. David Lorrain également qui est avec moi, lui qui est co-directeur artistique de la compagnie Lab 87, compagnie responsable de la présentation, et également qui a interprété Billy, qui est un des personnages importants de la pièce, mais moi qui s'attendais à ce que ce soit le personnage principal de la pièce, ce n'est pas une pièce sur la surdité, LSQ versus oralisme, c'est une pièce... J'ai l'impression où les préjugés se confrontent parce qu'il y a vraiment beaucoup de préjugés avec plusieurs couches.
Oui, effectivement. Écoute, les préjugés passent beaucoup par le personnage qui est interprété par Jacques Lheureux dans cette famille d'intello-là qui ont des idées très arrêtées sur certains sujets. Puis qui les confrontent ensemble constamment. Puis Billy, ben comme tu dis, c'est le point central de cette histoire-là, mais en même temps, il s'exprime pas beaucoup avant la moitié du spectacle. Écoute, je pense que j'ai 2 répliques, là. Je demande de quoi vous parlez constamment, puis sinon, je dis rien d'autre.
Puis ça prend au moins une demi-heure.
Ah ouais.
Moi qui ne vous vois pas, bon, je sais parce qu'à un moment donné, on aborde la présence de Billy dans la famille, mais je me suis demandé à un moment donné, il me semble qu'ils ont mal résumé la pièce. Puis là, finalement, bon, il y a un tournant là, qui se fait, mais c'est particulier. Ceux qui écoutent La soirée est encore jeune, on se bitch pendant 2 heures, ça c'est x3 comme famille, là, c'est le climat est assez tendu.
Puis Billy, tu sais, il est là tout le début, la première demi-heure. Il est sur scène, donc, avec la famille, pendant le souper. Mais c'est ça.
Vous êtes payé pareil?
C'est moi qui me paye, fait que oui. Mais c'est ça, il est là, puis il essaye parfois de comprendre ce qui se dit, sauf que ça va tellement vite que souvent, ce qu'il fait, c'est que c'est une réalité aussi que les sourds vivent, ceux qui sont dans des familles qui sont très... entouré de verbomoteurs, puis ça va vite. Des fois, c'est qu'il t'abandonne. Tu fais, ça me demande beaucoup trop d'efforts à essayer de comprendre ce qu'il se dit. Je vais me concentrer sur mon souper, puis ça va être ça, ma soirée.
Et ça, même les non-voyants qui vont dans des soupers, des restaurants bruyants, des soirées de gala, on comprend tout à fait, c'est pas long qu'on lâche prise. C'est une Britannique, Jean-Simon. Vous avez été, si j'ai bien compris, responsable de la traduction. de cette pièce de Nina Raine.
Oui.
Je me suis demandé, est-ce que ça vous a tenté? C'est très, très, très rare, mais il y a quelques allusions à des lieux anglais. Est-ce que ça vous a tenté de parler de Terrebonne ou de, plutôt que, je me souviens plus, là, les deux lieux? Mais...
Oui, Runcorn Leeds aussi. C'est l'éternelle question en théâtre. Là. Vraiment, là, c'est vraiment l'éternelle question. Est-ce qu'on adapte? Est-ce qu'on garde les références locales? Et puis, c'est le metteur en scène, en fait, Frédéric Blanchette. Dans la traduction, moi, j'étais vraiment ouvert à tout, mais qui a décidé de garder ça local. Ça donne une petite distance aussi qui est intéressante avec la famille. Donc, vraiment, c'est ça. C'est comme si on observait, mais il parle en québécois. Il sacre avec nos fameux sacs catholiques.
Ouais. Et il s'en prive pas, d'ailleurs.
Il s'en prive pas. Non.
Cette idée d'avoir, parce que vous interprétez une personne sourde, David, oui. Donc vous parlez de la façon de quelqu'un qui n'a pas entendu, donc avec une élocution, disons, approximative. Ça a été difficile à apprendre. En même temps, on ne veut pas caricaturer.
Ça a été un long processus. J'ai été finement dirigé par Frédéric à la mise en scène. Sinon, comme j'ai passé un an dans la communauté sourde, j'en avais entendu quand même plusieurs. Et je suis arrivé en répétition avec plusieurs suggestions pour lui. Donc, des versions très affectées. Donc, souvent, c'est les sourds qui sont plus âgés, qui n'ont pas connu l'implant cochléaire, donc qui, eux, ont des appareils ou souvent qui ne les utilisent pas du tout. Certains de mes profs parlaient à l'occasion parce que ça arrive que des fois, là, il n'y a personne qui comprend. Et donc, le prof plongeait puis parlait. Donc, ça m'inspirait un peu. Mais c'était très difficile, cette version-là, à comprendre pour le spectateur. Puis, il fallait que le spectateur puisse comprendre ce que Billy dit. Donc, on est allé vers une version qui est plus proche des jeunes, donc ceux qui ont, en tout cas, ceux qui ont l'implant cochléaire au niveau de la langue parlée, c'est plus compréhensible.
Ouais.
D'ailleurs, hier, on avait une spectatrice qui, c'est assez rare, là. Elle est en fin quarantaine, puis elle a l'implant cochléaire. Et ça s'est bien passé, l'opération. Je sais que des fois, passer un certain âge, là, c'est plus difficile. Il y a des fois, ça ne fonctionne pas. Elle, ça fonctionnait très bien, puis elle me parlait vraiment... même mieux que ce que j'ai fait avec Billy dans la pièce.
C'est la deuxième année que vous la présentez.
Ouais.
Est-ce que vous étiez de la distribution l'année passée?
Oui, on a changé seulement une comédienne.
Est-ce que vous aviez déjà votre LSQ avant l'an passé? Puisque vous avez passé... c'est quoi? C'est-tu Carole? Je ne sais plus quelle comédienne qui joue la personne sourde également.
Caroline.
Est-ce qu'elle le possédait? Est-ce que ça a été une difficulté vraiment ajoutée?
Oui, l'an dernier, on avait une comédienne qui s'appelle Claire-Vie Tiens-Pont qui avait fait les cours avec moi à l'Institut Raymond Devoir. Donc, elle était très proche de la communauté. Elle a aussi des amis dans la communauté. Fait que ça avait été assez facile. Puis quand je signais, puis qu'elle interprétait ce que je disais, c'était toujours vraiment en lien direct avec ce qu'elle me voyait faire. Là, cette année, ce qui est arrivé, c'est que Claire-Vie est tombée enceinte, puis on l'a su cet été, puis les cours, ils étaient déjà bookés à l'Institut. On a essayé d'avoir des cours pour Caroline, c'était difficile. Donc, j'ai donné des cours à Caroline avec mes deux sessions de LSQ dans le corps. Vraiment un cours de base, j'ai donné comme trois cours. Et puis après ça, je lui ai montré qu'est-ce qu'on fait dans la pièce, tous les signes individuellement, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ça, pour qu'elle comprenne vraiment ce que je signe dans la pièce. Mais elle pourrait pas, par exemple, s'adresser en langue des signes à des sourds qui viennent voir le spectacle, parce qu'on a manqué de temps à ce niveau-là.
Elle a eu des coachings aussi à l'Institut.
Oui, elle a eu des coachings à l'Institut. À la dernière minute, on a réussi à avoir des coachings privés. Merci à l'Institut Raymond Devoir qui nous ont supportés finalement quand même l'année passée.
Jean-Simon, est-ce qu'il y a des particularités lorsqu'on fait une mise en scène? Bon, je sais que vous êtes adjoint, là, mais vous avez quand même travaillé dans le processus. Est-ce que, justement, que ce soit pour le positionnement, que ce soit, j'essaie de penser, là, est-ce que c'était facile pour les gens de la dernière rangée de voir peut-être les petits détails du langage signé?
Bien, bonne question. En fait, c'était le désir de Frédéric aussi de placer les spectateurs en position bifrontale. Donc, vraiment, on a le plateau au centre, puis les spectateurs se font face. C'est drôle parce qu'à la base, dans la version originale, tout ce qui est dit en langue des signes, en LSQ, est surtitré. Donc, l'auteur suggère de les projeter au-dessus de la scène. Mais rapidement, lors des enchaînements devant les directeurs artistiques du Théâtre La Licorne, ils nous ont posé la question. Ils ont dit « Pourquoi vous ne mettez pas les spectateurs dans le même, dans le même point de vue, perspective, la même perspective que Billy et Sylvia, en fait, qui, lors des soupers très animés, ne comprennent pas tout, saisissent seulement des bribes? » Et puis, c'est vraiment intéressant, ça a amené la pièce à un autre niveau pour les gens, justement, qui n'ont aucune base de l'SQ. Quand les personnages s'adressent, se parlent, dialoguent en langue des signes, ça devient tout à coup, les gens, on dirait, se taisent, il y a un silence, on sent qu'ils s'avancent juste un peu pour essayer de capter. Et juste dans l'émotion, dans l'expression du visage, on arrive à sentir la chicane, les remords, les adresses que les personnages se font. Donc ça, vraiment, dans la mise en scène, c'est un choix qui est arrivé sur le tard, mais qui, au final, souvent, c'est ces choix-là qui sont les meilleurs, c'est les surprises, les inattendus. Puis, fait que vraiment, le côté bifrontal, enlever les surtitres, ça a vraiment été les choix de mise en scène qui ont fait que les spectateurs sont plongés dans la perspective du personnage de Billy, qui, lui, est sourd de naissance.
Et malgré ma cécité, même s'il y a certains moments là, que, disons, j'ai manqué, ceux-ci sont très, très limités. On peut très, très bien suivre et comprendre la dynamique. Dynamique, d'ailleurs, qui est très intéressante parce que tu as une personne qui est en perte d'audition, Sylvie, et tu as quelqu'un qui, lui, découvre la LSQ, donc reprend, si on veut, une nouvelle forme de communication. Donc, c'est comme deux trains qui se croisent, mm-hmm. mais dans des directions opposées, et un, donc, qui embrasse la communauté en voyant comme enfin une communauté qui me comprend et avec qui... Et l'autre qui dit non, moi, je suis pas prêt à aller vers cette communauté-là. Cet aspect-là est intéressant. C'est dommage parce qu'on le découvre presque à la... L'enjeu est placé à la fin et pour moi, en tout cas, je trouve que c'est un des enjeux qui est vraiment intéressant. C'est pas parce que tu es sourd que tu es pareil comme tous les autres sourds, je veux dire. Chacun a sa vie, sa réalité, ses angoisses, ses craintes, ses frustrations. Le plus gros défi est peut-être ce que l'on vous dit des spectateurs ou des commentaires Facebook ou à l'un ou l'autre.
Non, dans le sens que la pièce est quand même très bien reçue au niveau des spectateurs. C'est vraiment aussi c'est intéressant, David, tu pourrais peut-être la soirée là, de première, là, quand justement l'équipe de l'Institut sont venus puis ont dit qu'on avait réussi à sensibiliser, en fait. Tu veux-tu raconter cette anecdote-là? Je la trouve très intéressante.
Oui, bien, c'est sûr qu'au départ, ça n'a pas été accueilli. On n'a pas été accueilli à bras ouverts par la communauté sourde. Puis je comprends, c'est qu'on s'en va parler d'eux, mais sans les inclure. Puis même moi, je me sentais un peu mal de faire ça, d'où le fait que j'ai passé un an à étudier ça et que j'ai pas pris ça à la légère.
C'était pour la pièce, pour présenter la pièce que...
Oui, okay. C'était vraiment pour ça. Parce qu'on était vraiment... On avait un dilemme quand on a voulu présenter cette pièce-là. C'était, est-ce qu'on travaille avec un sourd qui a jamais fait théâtre, nécessairement, parce qu'on est parti à la recherche d'acteurs professionnels sourds, puis il n'y en a pas au Québec. Donc, c'était soit qu'on fait ça, ou sinon, ben, on y va avec un acteur professionnel, puis on l'immerge dans cette communauté-là. Ouais. Puis on savait qu'un ou l'autre, ça allait faire de la chicane, ouais. soit avec la communauté des acteurs ou avec la communauté sourde. Puis ben, c'est ça. Donc moi, je suis allé, j'ai mis ma tête là-dedans. Puis on s'était fait avertir, tu sais, ils vont réagir, ils vont... puis c'est normal. Puis finalement, ma directrice et les gens de l'Institut sont débarqués un soir que je ne savais pas qu'ils étaient là. On avait une discussion avec le public dont j'ai vraiment parlé à cœur ouvert avec eux de justement les difficultés que j'avais vécues avec la communauté, que c'était, ils avaient très peur de la pièce. Puis finalement, ils sont venus me parler après la discussion, puis on dit, tu sais, c'est vraiment super ce que tu as fait, puis tu réussis à faire avec de l'art, avec le théâtre, ce que nous, on a de la difficulté à faire avec notre mission, avec des subventions puis avec des communiqués de presse.
Ça, c'est sûr.
C'est vraiment une phrase que moi, comme après avoir travaillé tout ce temps-là, pour, c'est sûr que cette phrase-là, je m'en rappelle encore, puis ça aide à continuer.
Ah non, c'est pas pour rien qu'on dit que la culture, ça fait avancer une société. Messieurs, merci beaucoup. Je dois et je veux parler des journées québécoises pour la lésion, les lésions médulaires. Mais ça se passe donc encore jusqu'au 19. Ceux qui nous écoutent en direct, là, il y a trois représentations, dont une... Est-ce que c'est 16h samedi encore cette semaine?
Oui, ouais. Okay. Et il reste des billets vendredi et samedi.
Excellent. Jean-Simon Traversy, David, c'est-tu Marin? Lorrain! Également, quatre lignes plus bas. Merci beaucoup, beaucoup, messieurs. Tiens, les oreilles avec Amélie. Puis merci. Ensuite, on parle à M. Vizina.
Tu parles, tu dis, mais tu dis rien. Que des mots en rafale, sans but et sans lien. Tu déraisonnes d'une voix qui grogne, croyant à l'illusion que l'on comprend à la force du ton. lunettes, tu parles à l'infini. C'est pire qu'une devinette, un déluge de mots expulsé exprès pour laver mon cerveau et te défouler bien faire. Mais tu cries, tu cries, mais moi je ne t'entends pas, je n'entends qu'un bruit blanc qui sort de toi. Tu cries, tu cries, mais pourquoi tu cries comme ça, t'as pas encore compris que je t'écouterai pas. Tu cries, tu cries, mais moi je ne t'entends pas, dis-moi d'un mot gentil et peut-être là. Tu cries, tu cries, mais pourquoi tu cries comme ça, t'as pas encore compris que je t'écouterai pas. Tant que tu me diras pas doucement ce qu'il y a, je boucherai devant toi mes oreilles de mes doigts. Ah, ah. Des mots qui trahissent ton mal au fond rouge. Et arrête de te débattre et reçois ce que je te donne. Rien de plus beau que deux âmes qui s'abandonnent. Et c'est toujours tu perçois le calme dans ma voix. C'est pour qu'enfin tu sois encore plus sûr de toi. Commandé par l'emprise des émotions qui grondent, te prennent et te conduisent aux abysses les plus sombres. Mais tu cries, tu cries, mais moi je ne t'entends.
Ça crie pas mal dans la pièce, mais il y a de belles, belles choses. Une fois qu'on s'est habitué au ton, là, une fois les 10 premières minutes franchies, de toute façon, vous, vous le savez, on vient de vous le dire. Alors, une fois qu'on a reçu toute cette amertume, cette colère, après ça, c'est vraiment... Il y a quelque chose dans cette pièce-là. Jean-Philippe Vizina est avec moi. Il est coordonnateur des Journées québécoises des lésions médulaires. Il était également agent de développement pour Mémo Québec. Moelle épinière et motricité Québec, mais on va dire Mémo Québec jusqu'à la demi. Si l'organisme existe depuis 1946, c'est la première édition des Journées, Jean-Philippe.
Oui, c'est la première édition des Journées québécoises des lésions médulaires.
Et qu'est-ce qu'on voulait obtenir comme objectif? C'était quoi le mandat qu'on vous a donné? Est-ce qu'on avait déjà l'événement créé quand on vous a embauché ou on vous a dit « pense à un événement »?
En fait, l'événement avait déjà été pensé avant de m'embaucher. Puis, en fait, on m'a demandé de contribuer à sa réalisation telle qu'elle avait été réfléchie, entre autres, par à la demande là, des membres de l'organisme Mémo Québec et de son conseil d'administration aussi.
Et l'idée derrière ces journées?
C'est vraiment de pouvoir démystifier la situation qui est encore méconnue et difficile des personnes qui ont des lésions à la moelle épinière. Puis, en même temps, d'offrir une occasion de reconnaître leur apport à la société québécoise, leur engagement aussi, puis de pouvoir impliquer les différents partenaires qui travaillent auprès de ces personnes-là, puis de les rassembler dans le cadre d'un événement où est-ce qu'il y aurait une grande variété d'activités.
Entre autres, quelques centres de réadaptation, ministère Santé et Services sociaux. Qu'est-ce qui est méconnu autour des blessures?
Bien, il y a le terme en tant que tel, lésion médulaire,
ouais.
qui est un peu encore méconnu de la part du grand public. En fait, c'est quand la moelle épinière, qui est le système nerveux central qui circule dans la moelle épinière, a été atteint dans le cadre d'un accident. Donc, c'est ça qu'on appelle une lésion médulaire.
Et lorsqu'on dit atteinte, est-ce que nécessairement on parle d'une séparation ou ça peut être une écorchure?
Quand on parle de lésion médulaire, on parle de n'importe quelle blessure qui va atteindre le système nerveux central à travers la colonne vertébrale. Donc, à ce moment-là, quand on parle de lésion, ça va entraîner une paralysie. du corps, dépendamment d'où est située la lésion. Ça va être, on va parler des personnes qui sont paraplégiques. Dans ce cas-là, c'est une lésion plus vers le bas de la colonne vertébrale, puis à ce moment-là, ça va atteindre les membres inférieurs. Puis plus on monte dans la colonne vertébrale, plus ça va atteindre, en fait, les quatre membres, puis le tronc aussi. Donc, on parle à ce moment-là de tétraplégie. Mm-hmm. Puis, ça peut être partiel ou total, dépendamment de la blessure, puis de la capacité, suite à l'accident, de pouvoir récupérer aussi, là, dépendant des personnes.
Ça se passe les 24, 25 et 26 septembre. Si je me fie au centre de réadaptation qui ont participé, Montérégie, Estrie, Québec, Montréal, c'est dans ces régions-là particulièrement où on peut également trouver quelques activités au programme en Abitibi?
En fait, oui. On a des activités, on a une grande variété d'activités dans le cadre des journées. Mais si on parle de ce qui est disponible à l'extérieur des grands centres, nous, le 25 septembre prochain, on anime trois conférences qui sont sur le thème des handicaps et technologies. Ces conférences-là vont être présentées à partir de l'Institut de réadaptation de Québec. Les conférences vont être là, mais ils vont être disponibles par webinaire. Puis il y a plusieurs centres de réadaptation un peu partout à travers la province. Donc, ça va de justement la Abitibi, la Côte-Nord, Val-d'Or, l'Outaouais, à la région de Sherbrooke, la Montérégie, la région de la Rive-Nord de Montréal. Donc, différents centres de réadaptation vont rediffuser ces webinaires-là et inviter les gens à venir dans leurs locaux pour pouvoir y assister en groupe. Donc,
est-ce que par la suite, on va pouvoir, ceux qui ne seront pas disponibles à ce moment-là, quand même pouvoir en profiter sur le web?
Oui, ils vont être disponibles en rediffusion par la suite aussi.
Excellent. Il y a d'autres activités, tiens, pendant qu'on s'y arrête?
L'activité phare de notre événement, ça se passe le 24 septembre, ici à Montréal. Ça s'appelle la soirée sur roue. C'est un événement où le thème, c'est de permettre à l'ensemble des invités, que ce soit des personnes en fauteuil ou des personnes, qu'on dit, sur deux pieds, mm-hmm. de pouvoir vivre l'expérience de passer une partie de la soirée en fauteuil roulant. Question de créer un environnement inclusif pour l'ensemble des participants. Puis on veut faire ça dans une ambiance qui est très ludique et festive aussi. Donc, on a plusieurs activités qui sont prévues. Il va y avoir de l'animation musicale. On a des artistes invités, dont la chanteuse Emmanuelle Robitaille, qui est elle-même une blessée médulaire, qui, entre autres, s'est fait connaître parce qu'elle a été finaliste à l'émission La Voix, qui fait dans la chanson Soul et R&B. Puis on a aussi Marco Cagliari, chanteur d'origine italienne, qui a été pour plusieurs années le parrain de Mémo Québec, qui va venir faire des prestations, avoir des démonstrations de Zumba en fauteuil roulant.
Ah ouais.
Puis des défis sur roue, en fait, des défis en fauteuil qu'on va lancer aux gens au cours de la soirée. Puis en même temps, c'est un cocktail dînatoire, donc il va avoir bouchées, boissons, et etc. Puis ça va être l'occasion aussi pour nous de remettre les prix Méritas des Journées québécoises des lésions médulaires, où on va reconnaître la contribution, que ce soit sociale, professionnelle ou l'engagement auprès justement des blessés médulaires de trois personnes qui vont recevoir un prix dans le cadre de la soirée.
Est-ce qu'on s'intéresse dans ces journées également à la recherche ou c'est vraiment au quotidien?
On s'intéresse à la recherche. La recherche, en fait, va avoir sa place principalement dans le cadre des conférences qui vont être présentées le 25 septembre. Donc, c'est là où on va pouvoir présenter les dernières percées en termes d'aide à la motricité, de recherche et de développement aussi pour ce qui est de supporter les blessés médulaires dans leur voie vers une plus grande autonomie puis une plus grande guérison aussi.
Jean-Philippe, je sais que ça ne fait pas nécessairement longtemps que vous êtes dans ce milieu-là, mais est-ce que de ce que vous entendez autour, soit par les 900 membres ou le conseil d'administration ou d'autres, on sent que ça bouge ou finalement, bon, la société va toujours au même rythme dans l'acceptation, dans l'avancée peut-être de l'inclusion?
Oui, c'est sûr qu'il y a énormément de travail qui a été fait puis de progrès qui ont été faits si on parle depuis la création de l'organisme là, en 1946.
Est-ce qu'on avance toujours au même rythme?
Ben, en ce moment, c'est sûr que pour les questions, les gros enjeux, puis c'est pas seulement propre aux blessés médulaires, c'est les enjeux d'accessibilité. Mm-hmm. Donc, de permettre aux gens de pouvoir, autant en termes d'accessibilité des lieux physiques, l'environnement bâti, l'environnement urbain, que comme l'accessibilité aux emplois, et etc., pour les personnes qui ont un handicap. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est difficile, puis c'est sûr que ça prend une certaine volonté politique, mais aussi une plus grande sensibilisation du grand public pour être en mesure de faire avancer ces dossiers-là. Ouais. En ce moment, il y a peut-être une certaine stagnation au niveau politique, dans le sens que c'est moins mon dossier à moi personnellement, mais bon, il y a une loi en lien avec l'accessibilité qui a été passée ici au Parlement du Québec, puis on a appris dernièrement que, bon, pour des questions financières, elle allait être repoussé dans le sens, l'idée, c'était de rendre le plus possible l'environnement bâti accessible pour les personnes qui ont des limitations physiques.
C'est ça, alors que certains demandent une loi cadre, même les lois, disons, moins restrictives sont repoussées. Alors, on est loin d'obtenir la loi cadre qu'on souhaite. Et pour avoir reçu des candidats de toutes les formations politiques dans l'émission de télé que je mène, aucun ne parle de loi cadre. Et lorsque je leur en parle, aucun, non seulement ne sont au programme, mais ne semble voir la pertinence d'une loi cadre canadienne. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, d'où l'importance de journées comme celle-là.
Exactement.
Est-ce que vous avez déjà déterminé que ce serait un événement annuel ou on en fait une édition, puis on verra les réponses, les retombées?
L'idée, c'était déjà d'en faire un événement annuel.
Donc, vous avez un job pour un bout de temps, là.
On va voir ça. Mais on commence avec cette première édition-là. Puis, l'idée, c'est... bien sûr, de sensibiliser la population à la réalité des personnes qui ont des lésions médulaires, de pouvoir inviter et faire participer les organisations partenaires qui travaillent avec nous pour, avec les années, bonifier de plus en plus les journées, en faire peut-être une semaine complète d'activité. Puis, l'avenir nous dira ce qui va être réservé pour les Journées québécoises des lésions médulaires.
Mais... Où en sommes-nous pour le site web? Parce que j'ai vu, là, bientôt, revenez-nous, mais oui. C'est parce que le 24, c'est aussi bientôt.
Oui, c'est bientôt. Donc, en effet, il y a toujours des petits imprévus.
Okay. Mais... Je ne veux pas donner une adresse qui n'est pas valide, là.
Mais l'adresse est valide et vous pouvez trouver énormément d'informations malgré tout sur le site web. Il y en a d'autres qui ont été ajoutées. Okay. Il va y avoir la programmation complète va sortir aussi. En ce moment, si vous rendez, vous allez avoir les informations pour vous inscrire aux conférences, les informations sur la soirée sur roue. Vous pouvez télécharger le programme qui est de l'ensemble des journées avec les activités qui vont être présenté dans le cadre des journées.
Donc je vous invite à y aller.
Oui, l'adresse, c'est jqlm.ca.
OK, donc JQLM pour les Journées québécoises des lésions médulaires. Et on en parlait avec Jean-Philippe Vizina, qui est coordonnateur des Journées en question. Une initiative de Moelle Épinière et Motricité Québec, Mémo Québec. Après la petite pause, on s'en va en Estrie. On parle Alzheimer et répit. À tout de suite.
Vous écoutez « Ça vaut le détour » avec Luc Fortin et ses invités.
Oui, mais avant de parler des invités, tout en vous saluant tout de suite, Sandra Asselin, mentionnez que Rémi Hermoso est à la mise en onde, que Anne-Laure Janson est à la recherche, Kevin est aux réseaux sociaux et Sandra est au téléphone. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, vous?
Oui, merci, c'est gentil. Vous êtes agente de développement et vous êtes responsable du programme d'activité de stimulation à domicile, le PASAD. On se déplace en Estrie. Vous travaillez pour la société Alzheimer Estrie. Parlez-moi avant qu'on arrive au PASAD, parlez-moi un peu peut-être des services qu'offre la société dans votre coin.
Bon, en fait, on offre on a premièrement des groupes de soutien pour les gens. On a des conférences qui sont données une fois par mois. On a des ateliers de formation. On a des rencontres, d'échanges et d'informations qui peuvent être faites de façon individuelle. On a des ateliers thématiques et on a des rencontres individuelles qui peuvent être sur plus un suivi régulier, là.
Et ces rencontres-là, individuelles, sont avec des personnes atteintes ou des proches aidants?
En majorité, c'est plus avec les proches aidants qu'on intervient que les personnes atteintes. Ça arrive quelquefois, des gens en début de maladie qui veulent avoir des informations, tout ça. À ce moment-là, c'est plus des informations que du suivi. Le suivi est vraiment plus offert là, aux proches aidants ou aux familles là, des personnes.
Oui. Ce fameux programme qui se veut finalement à la fois un programme de répit pour certains et de stimulation pour d'autres avait déjà été introduit du côté de Sherbrooke?
Oui, depuis les années 2000.
Pourquoi seulement, seulement dans le sens, avoir été obligé d'attendre aussi longtemps pour proposer ça du côté de Magog?
Nous, c'est sûr que c'est toujours en lien avec le financement là, qu'on obtient, parce que ce service-là est offert à un coût très minime pour les familles. Donc, ça, on doit avoir de l'appui d'autres bailleurs de fonds. Là. Donc, pour le moment, là, c'est l'appui Estrie qui nous permet là, d'offrir le service de répit à Coumadic. Là.
Ça se passe comment? Vous allez chez les personnes atteintes ou le proche aidant amène chez vous la personne?
Non, c'est nous qui serons à domicile. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça a vraiment deux volets. Mmh. On a le volet répit qui est offert au proche aidant parce qu'on l'invite à vaquer ses occupations. Il peut quitter la maison, il peut rester, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Parce que pendant ces trois heures-là de répit, nous, c'est là qu'on fait la stimulation avec la personne atteinte. Donc, il arrive qu'on reste à domicile, si la personne préfère rester à domicile, ou on propose aussi des activités qui peuvent se dérouler à l'extérieur de la maison.
Quelles sont les activités de stimulation? Est-ce que le programme va varier selon la personne, selon où elle est rendue?
Oui, exact. Dans le fond, nous, on a toujours une rencontre préparatoire en compagnie du proche aidant, de la personne atteinte, qu'on va faire vraiment une recherche, un recueil d'informations sur quels étaient ses intérêts à cette personne-là, des fois avant que la maladie se développe, tout ça, puis on va essayer de rechercher un peu là, ce volet-là. Puis on s'adapte, c'est ça, avec l'évolution de la maladie, bien sûr. Là. Fait que c'est sûr qu'on s'adapte vraiment là. Qu'est-ce que la personne aimait? C'était quelqu'un qui aimait plus faire des jeux de société, faire des casse-têtes, on va aller vers ça. C'est quelqu'un qui est très actif, qui est plus moteur, puis qui aime bouger, mais là, on peut sortir à l'extérieur, on peut aller prendre des marches. C'est quelqu'un qui aimait jouer au golf, on peut l'accompagner faire une partie de golf. On va vraiment là avec les besoins de la personne.
Sandra Asselin est agente de développement et responsable du programme d'activité de stimulation à domicile du côté de Magog. C'est la société Alzheimer Estrie qui, depuis tout récemment finalement, offre enfin ce programme-là du côté de la MRC Memfrey Magog. Comment une personne atteinte d'Alzheimer évolue-t-elle avec une nouvelle personne dans son entourage?
Bien, habituellement, ça prend quelques semaines à vraiment établir la relation, mais par la suite, là, habituellement, ça fonctionne très, très bien.
Et le programme dure combien de temps avec chaque personne? Est-ce que c'est au bon vouloir ou au besoin du proche aidant?
C'est au besoin, oui, du proche aidant, mais aussi vraiment en fonction de l'évolution de la maladie de la personne. Tout dépendamment à quel stade, nous, on a débuté les services. Puis, tant que la personne, en fond, va répondre à la stimulation, va trouver agréable les activités, nous, on va poursuivre. Lorsque la personne n'a plus les capacités de suivre les activités, ne répond plus à la stimulation, c'est là que nous, on doit quitter. Là.
Et cette stimulation-là a un but précis?
Oui, bien, c'est sûr que nous, ça a des bienfaits. Qui perdure jusqu'à quelques jours suivant la visite, parce que la personne, l'objectif dans le fond de la stimulation est beaucoup de faire vivre un beau moment, de vivre le moment présent. Puis ce moment-là, bien, dans le fond, perdure parce que la personne a vraiment vécu quelque chose d'agréable. Puis suite à ça, bien, ça lui fait quelque chose aussi à raconter à son proche aidant, à sa famille, tout ça. Fait qu'il y a un niveau sur ça, puis il y a aussi... Au niveau de la maladie, là, on dit que plus on est stimulé, plus on stimule le cerveau, mais moins la maladie là, peut évoluer.
Donc, ce sont des activités de type quoi, mots croisés, casse-tête, je sais pas là.
Oui, ça peut être des choses qui sont faites. Mais des fois, c'est ça, juste de bouger, tu sais, juste l'activité, juste de bouger, de prendre l'air, ça a un effet bénéfique aussi. Les arts peuvent avoir un bel effet, la musique aussi. Il y a plusieurs domaines là. Mm-hmm.
Couvrez-vous d'autres municipalités régionales de comté dans votre coin?
Oui, bien en fait, on offre le service à Sherbrooke et dans les MRC du Granit également.
OK. Et les besoins, bon, on a parlé d'argent au début de l'entretien, évidemment que les besoins sont plus grands que ceux auxquels vous êtes aptes à répondre, j'imagine, mais est-ce qu'on a quand même, sans être capable de répondre à tous les besoins, une idée en Estrie, du besoin de répit?
C'est du, non, par, je peux pas vous dire de nom, de chiffre exact. Nous, c'est sûr qu'on les suspecte. Parce que là, le répit, c'est quand même large. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de répit. Nous, c'est sûr qu'on se spécialise dans les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment cette clientèle-là qu'on priorise. Et, bien, là, je dis la maladie d'Alzheimer et toutes les maladies apparentées, parce que c'est pas obligé d'être juste l'Alzheimer, là, mais tout ça. Mais c'est sûr que des besoins, j'imagine qu'il y en a...
Oui. Non, mais je pensais à votre clientèle. Est-ce que il y a plusieurs demandes auxquelles vous n'êtes pas capable de répondre?
Pour le moment, pour la région de Sherbrooke, oui, le service est très bien implanté. Donc, on est pratiquement toujours sur liste d'attente.
Ah oui.
Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour la région de Memphremagog, le service débute. Donc, on est en implantation, le temps de se faire connaître et tout ça. Nous, on a fait le tour du réseau de la santé. Les travailleurs sociaux collaborent avec nous, tout ça, avec le temps de l'implanter. Là, on a encore de la place là, pour reprendre des familles.
Donc, on appelle à la Société Alzheimer Estrie. Comment s'inscrire? Ou on a besoin d'une... Je sais pas, moi, du CLSC qui nous inscrit.
Non, dans le fond, le CLSC, des fois, vont intervenir avec nous, mais ce n'est pas obligatoire. Dans le fond, on n'est pas obligé d'avoir un intervenant dans notre dossier. Si toutefois vous êtes à domicile et vous sentez que vous avez besoin de répit ou que vous aimeriez permettre à votre personne atteinte là, d'avoir un beau moment, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent communiquer directement avec le bureau ici, là, à Sherbrooke.
Qui sont vos accompagnateurs? Comment les avez-vous formés?
Les accompagnateurs sont choisis vraiment en fonction de leur personnalité, je dirais, leur intérêt. Donc, on va aller vraiment chercher des personnes qui sont passionnées de ça, de donner du temps pour les autres puis de faire vivre un beau moment, là. Suite à ça, les formations, mais dans le fond, sont une fois par mois. Les accompagnatrices, on a présentement une quinzaine, se rencontrent ici au bureau pour recevoir de la formation sur la maladie, sur des façons d'intervenir, sur des idées d'activités. Il y a souvent aussi une section de la formation qui est réservée au partage entre elles d'expériences qu'ils ont vécues, de choses qu'ils ont essayées qui ont bien été ou des moments qui ont moins bien été pour évoluer, finalement, dans ça.
Donc, c'est une formation continue?
Oui, ouais. Effectivement.
Je vous entends utiliser, elle, j'ai parlé cette semaine à Guylaine Martin, qui est en charge des baluchons, du baluchon, et elle me disait que ces baluchonneuses, elle a essayé avec un gars une fois, ça n'a pas fonctionné, les proches aidants sont encore un peu mal à l'aise à avoir des baluchonneurs. Est-ce que vous avez rencontré les mêmes hésitations? C'est pour ça que vous avez juste des accompagnatrices?
Mais non, c'est ça, je vous dis ça, mais en fait, c'est une malformation parce que depuis peu, on a un homme qui s'est joint à l'équipe. Donc, c'est sûr qu'il y a moins d'hommes qui se manifestent aussi là, pour occuper ce type d'emploi-là. Mais oui, là, présentement, là, on a un homme qui est avec nous.
Et ça va bien jusqu'à maintenant?
Oui, okay. Très bien. Intéressant. Très bien. Puis on a beaucoup de personnes atteintes aussi qui sont des hommes. Donc, ça peut amener un autre côté, un autre volet là, différent. Là.
Vous parliez des coûts. Ce sont des coûts très, très modiques.
Oui.
C'est quoi, 5 $ de l'heure, je crois?
Bien, pour la région, ça dépend des régions, de l'appui qu'on obtient. Là.
Mais ça peut aller entre quoi et quoi?
Pour Magog, là, présentement, c'est ça. On est à 5 $. Pour Sherbrooke, c'est à 7 $ de l'heure.
OK. Puis le granit, lui, comment ça évolue de ce côté-là?
Ça va super, c'est très bien aussi. Là-bas, c'est implanté depuis 2 ans maintenant. Puis ça fonctionne très bien. Eux aussi, malheureusement, doivent avoir une liste d'attente.
Ouais, ouais. Ben, le vieillissement de la population nous montre à quel point on a besoin de vous.
Oui, exact.
Qui dit liste d'attente dit besoin croissant.
Exact.
Ben, bonne continuité, Sandra Asselin. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes agente de développement et responsable donc du programme d'activité de stimulation à domicile, le PASAD, affilié avec la Société Alzheimer Estrie. Nous, on va se faire plaisir avec James Taylor, qui nous chante Le Moi, et une femme que j'ai hâte à qui j'ai hâte de jaser. Elle a mis sur pied, en fait, elle est graphiste et elle a décidé non seulement de travailler son graphisme, mais également sa passion comme photographe. On parle d'un calendrier tout de suite après Taylor.
« sun's not so hot in the sky today. And you know I can see summertime slipping on away, slipping on on. A few more geese gone, a few more leaves turning red. But the grass is as soft as a feather in a feather bed. Oh, darling. So I'll be king and you be queen. Our kingdom's gonna be this little patch of green. Won't you lie down with me right now in this September grass? Won't you lie down? September grass, yeah, yeah, yeah. Oh, the memory is like the sweetest pain. Yeah, I kissed a girl at a football game. I can still smell the sweat and the grass stain. Walked home together, but I was never the same. Yeah. But that was a long time ago. So where is she now? Oh, I don't know. Won't you lie down with me now, now in this September grass? Won't you lie down? September grass is the sweetest kind. It goes down easy like apple wine. Hope you don't mind if I pour your songs, made that much sweeter by the winter to come. Do you see those ants dancing on a blade of grass? But I know that's you and me, baby. Yes, it is. We're so small and the world so vast. We found each other down in the grass. Won't you lie down with me right here? September grass. Won't you lie down? September grass, oh darling, lie down, 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 in the September.
James Taylor sur Canal M et sur Vusevoix.com. Valérie Poirier, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va très bien, merci. Semble-t-il que vous êtes infographiste.
Oui, en fait, oui, je suis infographiste.
Est-ce que la photographie fait également partie de votre vie comme de façon importante ou vous vous sentiez suffisamment qualifié pour faire un calendrier?
Oui, en fait, bien... c'est une passion plus qu'autre chose. Je ne peux pas vous dire que je suis photographe, mais je vis la passion de la photo.
Ouais, c'est un peu comme ça que je présumais. l'aventure, l'objet. D'ailleurs, je connais des gens, puis je leur disais, « Ah, connais-tu Valérie Poirier? » Parce qu'elle est maman de jumeaux, dont une de petite taille, puis l'autre, mon Dieu, Spina Bifida, enfin, il y a tout le cocktail. Puis elle me disait, « Ben oui, Valérie, je la connais déjà. » Alors, je pensais lui présenter quelqu'un de bien, mais elle vous connaît déjà. Probablement Facebook et tout ça. Donc, vous êtes maman de Thomas qui a 4 ans, qui est atteint d'achondroplasie, donc une des formes de nanisme au Québec. Vous avez décidé non seulement d'utiliser Thomas, mais de croquer sur le vif des enfants pour, si je comprends bien, quoi, modifier notre perception, nous faire comprendre quelque chose?
Oui, en fait... La changer, parce que les regards sont quand même difficiles, donc je voulais les améliorer.
Qu'est-ce que veut dire améliorer? C'est quoi un regard difficile? Qu'est-ce qui est un regard peut-être, disons, inadéquat, mais causé par l'ignorance? Et ça, on peut le comprendre, parce qu'il y a différents regards, Valérie.
Oui, en fait, ben, c'est surtout des regards curieux qui lui pointent du doigt, qui rient, qui ne savent pas, qui sont vraiment justement dans l'ignorance. Mm-hmm. On veut les éduquer un peu.
Et comment un calendrier, parce que, étant aveugle, je ne l'ai pas vu, mais c'est quoi? C'est une grosse photo par mois? C'est plusieurs petites photos? C'est une histoire que vous racontez? Comment un calendrier peut changer les perceptions?
En fait, le calendrier, donc un calendrier, c'est 12 mois. Donc, 12 enfants différents, avec des handicaps différents, des maladies différentes, des besoins particuliers. Chaque mois, un enfant est à côté de l'enfant. Donc, l'enfant est photographié sur fond blanc. À côté de l'enfant, la description du handicap, une définition ou un fait ou une information que le parent aimerait que tout le monde sait.
Mm-hmm. Y a des gens qui ont vu certaines photos. Puis
oui.
Ils m'ont dit, ben là, ça paraît même pas que la petite fille est handicapée. Donc, à quoi sert une photo si on ne sait pas que la personne est handicapée? Moi, je vous dis ce qu'on me dit.
OK.
Donc, je vous pose la question. Pourquoi mettre des enfants qui ont peut-être des handicaps, neurologiques, ou ça ne paraît pas, justement, sur la photo?
En fait, les handicaps invisibles sont aussi font aussi mal à un parent qu'un handicap qui est visible. Donc, j'ai une fille, elle est dysphasique. Son handicap est complètement invisible. La dysphasie, c'est un problème de communication sévère. Mais quand la cocotte, elle ouvre la bouche, elle parle, c'est là que les gens se rendent compte de son handicap.
Ouais.
Oui, la photo, on ne verra pas nécessairement le handicap, mais à côté de la photo avec le texte, on va pouvoir le savoir.
Vous y avez pensé combien de temps? Ça faisait longtemps que vous vouliez faire quelque chose pour changer peut-être l'approche des gens?
Oui, en fait, depuis que Thomas est né, je veux aider, je veux m'impliquer, puis c'est la façon que j'ai trouvée.
Ne craignez-vous pas, Valérie, que... OK, je pose ma question différemment. Il me semble que pour que les gens comprennent, on doit leur permettre d'abord l'étonnement, ensuite le droit de questionner, puis ensuite de devenir des ambassadeurs, puis d'en parler à d'autres, puis de devenir justement des porteurs d'informations, de messages. Est-ce que le calendrier, tu sais, ça parle pas, ça bouge pas, est-ce que ça pourrait peut-être dire aux gens, on n'aime pas ça quand vous nous regardez différemment, on n'aime pas ça quand vous êtes étonnés?
En fait, non. En fait, ce que je veux surtout, c'est montrer aux gens, leur donner un début d'explication, puis ensuite, venez poser des questions.
Okay.
Les questions sont les bienvenues. Arrêtez de pointer du doigt, de rire. Vous avez des questions, ils sont les bienvenus. On ne peut pas tout savoir.
Ouais. Parlez-moi du pourquoi Thomas, 4 ans, attire les regards, et je présume des regards qui vous ont dérangé puis qui vous ont motivé.
En fait, Thomas est quand même très différent d'un autre enfant. Thomas, il est beaucoup plus petit. Il a à peu près la moitié d'un enfant de 4 ans.
Okay.
Il a les jambes beaucoup plus petites, les bras beaucoup plus courts, la tête plus volumineuse, des traits de la morphologie du visage, très distinctive. Donc, oui, les regards sont tournés.
Mmh. Puis les autres familles que vous avez contactées, ce sont des familles de la région de Québec. Comment s'est fait cette approche?
En fait, il y a surtout la page Un calendrier pour une bonne cause, que là, les gens participent beaucoup, partagent beaucoup. Ensuite, j'ai eu deux entrevues avec deux journaux. Et ça s'est fait quand même très facilement, là, le bouche à oreille. J'ai une cocotte aussi qui vient de Drummondville et j'ai un garçon qui vient de la Beauce, donc un petit peu plus éloigné.
Et c'est toujours vous qui prenez la photo ou les parents peuvent vous envoyer des photos?
Non, c'est moi qui prends les photos.
Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, là, un traitement particulier? Vous parliez de fond blanc, là, mais est-ce que vous voulez les voir dans une activité quelconque? Est-ce que c'est plutôt un portrait? Est-ce qu'il y a un message dans l'image?
Pas nécessairement. Dans le fond, ce que j'ai demandé aux parents, c'est d'apporter des accessoires, parce que moi, je suis pas professionnelle, donc j'ai pas mis un accessoire à la maison. Donc, j'ai demandé aux parents d'apporter, si les enfants font du sport, d'apporter un ballon de soccer qui peut représenter, ou si les enfants jouent de la musique, ça peut être une guitare, une flûte. Donc, une activité que les enfants font pour montrer que, en fait, sont comme toutes les autres pareils.
Oui, ils ont le goût de s'amuser, ils ont le goût de... il y a quand même des ventes associées au calendrier et il y a des fonds qui sont amassés également. Ça se veut un événement philanthropique, disons, par la bande aussi, là.
Oui, en fait, le but premier, c'est vraiment la sensibilisation. Le deuxième but, c'est ramasser des sous. C'est sûr que l'opération Enfant Soleil est une cause qui me touche beaucoup. Donc, j'ai décidé de leur donner 50% des fonds amassés. Et sinon, l'Association québécoise des personnes de petite taille, ils nous ont aidés depuis que Thomas est né. Moi, je cherchais une façon de leur rendre l'appareil. Donc, 50% eux aussi.
Et j'ai envie de vous demander comment... ça, c'est une association qui est basée à Montréal?
Oui.
Comment une association basée à Montréal peut être aussi proche d'une famille à Québec?
Ils sont très, très humains. Ils sont très... ils peuvent se déplacer facilement pour venir à Québec si on a besoin. On peut les appeler n'importe quand. Ils sont disponibles tout le temps. Donc, on n'est pas conscient là, du fait qu'ils soient à Montréal. C'est sûr, les activités vont plus se passer à Montréal. Par contre, si on en a besoin, ils peuvent se déplacer.
Ouais. Est-ce que ça a impliqué le fait que Thomas soit plus petit, des ajouts, des modifications à l'intérieur chez vous? Est-ce que...
Oui, en fait, on a fait adapter la maison. Pour commencer, on a été avec la salle de bain, donc un lavabo à sa hauteur à lui, des barres d'appui pour embarquer sur la toilette. C'est sûr que nous, on n'avait pas l'espace pour avoir une deuxième toilette,
ouais.
Donc on a été plus pratique. Barre d'appui pour le bain aussi. Les petits bancs ici et là, les interrupteurs, salle de jeu, salle de bain, la chambre à Thomas, donc on en a à notre hauteur, mais on en a à l'hauteur à Thomas aussi. Puis plus tard, on va faire adapter la cuisine.
Oui, mais c'est très bien parce que Thomas peut déjà aussi bientôt laver son lavabo. Alors, tu sais, c'est le fun parce que il y a quand même plein de responsabilités et d'apprentissage avec ces choses à lui.
Toute l'autonomie aussi,
ouais.
Juste se brosser les dents. C'est sûr qu'on lui brosse toujours les dents, mais il commence.
Je comprends.
Aller à la toilette toute seule aussi. Donc,
il y a 4 ans, donc il ne comprend pas tout ce qui se passe autour de lui. Est-ce que ça vous fait peur le jour où il va réaliser qu'il est différent des autres enfants, peut-être à la maternelle ou en première année?
Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils nous disent, les personnes de petite taille, que ils n'ont pas le choc que nous, on a vécu en tant que parents.
Okay.
Mais oui, j'ai peur que la journée où est-ce qu'il va me dire, « Mais maman, pourquoi moi, je suis plus petit? »
Ouais. Mais c'est correct, Valérie. Il faut qu'il se la pose, cette question-là. Il faut qu'il passe à travers les questionnements, les frustrations, les « je suis moins vite, je suis moins gros, je suis moins fort », parce que c'est comme ça qu'il va se renforcer le muscle de la détermination. Et il y a besoin que vous l'épauliez là-dedans, mais que vous lui montriez que vous avez confiance qu'il va passer au travers.
Exactement.
On se rencontre bientôt. J'ai bien hâte de vous serrer la pince chaleureusement, mais bon succès pour le calendrier. On peut se le procurer où, Valérie?
Pour l'instant, je vais pouvoir l'envoyer par la poste. Il n'y aura aucun problème. Sinon, je vais essayer de m'affilier avec Pharmacie Family Tree.
À travers le Québec?
Je vais essayer.
Ou juste dans votre coin? OK. Ben, en tout cas, on se souhaite bonne chance pour ça. Merci. Et ben, Karine Villeneuve va être bien, bien, bien contente. Tout comme Opération Enfant Soleil, c'est bien pensé. Merci à vous. Merci également à Rémi, à la mise en onde, à Anne-Laure, à la recherche, Kevin aux réseaux sociaux. On se retrouve demain ou bientôt avec Jean-François Martin pour Accès libre. Ciao.